Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
En 4 ans et 4 romans, Agnès Ledigue est devenue l'une des auteurs préférées des Français. Elle publie jeudi son nouveau livre, De tes nouvelles, c'est son titre. Bernard Lehu a rencontré celle qui a su séduire le public par sa sensibilité et sa gentillesse. Le retour d'un monstre sacré du lyrique, le ténor mexicain Rolando Villazón n'avait plus chanté à Paris depuis 15 ans. Il interprète dès ce soir Ulysse dans un opéra de Monteverdi. Charlotte Latour a assisté aux répétitions. Sur le plateau télévisé d'Isabelle Morini-Bosque, Tout le monde joue, un divertissement de France 2 présenté par Nagui et Michel Simès, consacré aux fascinantes facultés de notre cerveau. Enfin, Monique Younes nous présentera la bande dessinée RTL de février. Gus, c'est la suite des aventures du cow-boy créé par Christophe Blain, l'auteur de l'autre série à succès, Quai d'Orsay.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Cher Bernard Lehu, à la veille de la parution de son nouveau roman, De tes nouvelles, vous avez rencontré Agnès Ledigue, qui en 4 livres est devenue l'une des auteurs les plus aimés des lectrices et des lecteurs.
Oui, ils ont sans doute été touchés par ces histoires qui font du bien, marquées du sceau de la tendresse, de la solidarité et du goût de la vie. Pourtant, c'est un drame personnel qui est à l'origine de la vocation d'écrivain d'Agnès Ledigue, la mort de son fils de 5 ans, victime d'une leucémie, une expérience douloureuse qui lui a inspiré son premier succès en 2013, juste avant Le Bonheur.
Moi, j'avais des choses au fond de moi à crier au monde entier. Je suis passée par l'écriture parce que c'était ma façon à moi de le faire. Il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui peignent. Moi, je ne savais ni l'un ni l'autre. Donc, je me suis mise à écrire et j'ai rencontré plein de gens qui vivaient ça et qui se sentaient très seuls aussi. Et je me suis dit, mais non, il ne faut pas laisser ça au fond de soi. Et alors, j'ai eu la chance de m'en sortir. Je pense que j'avais un bon potentiel au départ de joie de vivre et voilà. Et puis j'avais promis à mon fils en plus, donc je tiens mes promesses.
Nathanaël.
Voilà. Et j'avais envie de dire aux gens, mais on peut s'en sortir. Et comme j'avais pas envie de parler de moi, je suis passée par le roman. Et c'est comme ça que j'y suis venue et j'y ai pris goût. Et puis voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Et ouais, c'est un peu grâce à lui. Il a dû me transmettre une lumière.
Une lumière, une sensibilité, une empathie qu'Agnès Ledigue doit aussi sans doute à son métier de sage-femme qu'elle exerçait avant d'y renoncer, le succès en librairie venu. Et d'ailleurs, l'auteur de Juste avant le bonheur aime voir entre son ancienne activité de sage-femme et l'écriture un lien évident et naturel.
Ah oui, carrément, il y a beaucoup de ressemblances. C'est parce que tant que j'écris, je le montre pas mon livre, je le garde pour moi. C'est comme un bébé dans un ventre. C'est-à-dire
on porte un livre.
Voit. On porte un
comme
livre,
un enfant.
Tout à fait. On l'imagine, on le conçoit, et puis il grandit, mûrit, et puis un jour, il est visible de tout le monde. Et là, on est obligé de le lâcher. Et l'analogie est extraordinaire entre les deux. C'est un très bel événement que je m'apprête à vivre, là, et pour lequel je me réjouis beaucoup.
Et l'accouchement n'est pas trop douloureux.
Non, ça va. Il y a pire. C'est tellement beau, moi je reste émerveillée, même après 5 romans, de voir mon livre en vitrine. Et je veux pas perdre cet émerveillement, c'est tellement formidable à vivre, tout ça je le prends et c'est génial.
Il se dégage beaucoup de simplicité, de sagesse et pour tout dire de fraîcheur du témoignage d'Agnès Ledigue.
Oui, le succès, alors ça c'est sûr, ne lui est pas monté à la tête. Elle vit toujours dans le village d'Alsace de son enfance, mariée à un agriculteur, éleveur de vaches laitières et elle est toujours entourée des mêmes amis. Bref, bah, comme le dit l'expression populaire, Agnès Ledigue, c'est une belle personne.
Et qui publie donc jeudi chez Albin Michel son 5e roman De tes nouvelles.
Alors ses lecteurs fidèles vont retrouver avec plaisir les personnages de son livre précédent, on regrettera plus tard, mais les autres pourront les découvrir sans que ce soit un problème. Un jeune veuf, Eric, et sa fille, Anna Nina, qui parcouraient les routes de France dans une roulotte, se posent définitivement chez Valentine, une institutrice et célibataire endurcie qui n'est pas insensible au charme d'Eric.
Ah oui.
Seront-ils capables de construire une vie commune, de fonder une nouvelle famille? Eh bien, c'est tout l'enjeu du roman.
Mais oui, ça ne coule pas toujours de source. On peut tomber amoureux et puis avoir du mal avec l'engagement, du mal avec l'idée de fermer la porte derrière soi par rapport à d'autres histoires possibles. Voilà, c'est pas rien de s'engager dans un couple. Et alors Valentine, elle a ce souci de ne pas réussir à s'attacher à quelqu'un par peur, hein, et ça arrive à des gens de pas pouvoir. Et puis Eric, effectivement, c'est cette difficulté de faire le deuil de sa femme, et c'est pour ça que j'aborde ce thème-là aussi, de ce geste symbolique, comment faire le deuil à un moment donné, parce que la vie continue, ça fait 7 ans, et il peut pas rester dans le passé. Et voilà, c'est quelque chose que je faisais avec mes patientes qui avaient vécu un deuil, d'aller quelque part, un bel endroit qui leur plaît, et puis faire un geste symbolique d'au revoir. Parce que c'est ça la vie, c'est passer à autre chose aussi.
Mais l'histoire de tes nouvelles ne s'arrête pas là. Agnès Ledig introduit un intrus qui va donner plus d'intensité et de complexité à son roman.
Elle a un amour pour Eric qui est un amour d'attachement, justement, qui n'est pas venu instantanément, mais il s'est installé quand même de façon assez certaine. Et puis elle va croiser quelqu'un.
L'homme des bois.
Voilà. Un bûcheron, il se passe quelque chose, mais de l'ordre physique. C'est-à-dire, ce type, elle ne le connaît pas, elle ne l'a jamais vu. Mais il y a quelque chose de presque chimique. Et donc, ça m'intéressait d'aborder ça aussi, parce que c'est des choses qui arrivent dans la vie. Elle va s'en vouloir, parce qu'elle ne veut pas de ça. Elle lutte, mais
en même temps, son corps parle à sa place.
Voilà, c'est un peu plus fort qu'elle, et voilà, elle a honte de ça. Et j'avais envie de détricoter aussi ce sentiment qu'on peut avoir de honte. Ça fait partie de la vie, quoi, c'est naturel.
De tes nouvelles, le nouveau roman d'Agnès Ledig qui paraît jeudi chez Albin Michel. Je sais que les lectrices l'attendent impatiemment. Oui. Tout à l'heure, Raphaël Nivouin me disait que Geneviève 58 envoyait un texto, un SMS en disant vivement la sortie de tes nouvelles. Et puis l'entretien complet d'Agnès Ledig est à retrouver sur RTL.fr.
Merci beaucoup Bernard Lehu. Nous allons passer maintenant à nos audiences télévisées de la veille. C'est avec Médiamétrie et Isabelle Morini-Bosque.
Beaucoup de choses à dire. Alors d'abord, bon, les audiences de 20h50, hein, bah c'est en tête M6 avec Indiana Jones et La Dernière Croisade. C'est mérité. 3 500 000 téléspectateurs et 16% du public sur M6. Mmh. Devant Castle, qui finissait enfin. 3 110 000 téléspectateurs et près de 13% du public sur France 2. Juste devant Ennemi Public sur TF1, la série belge. 3 100 000 téléspectateurs et là aussi près de 13% du public sur la Une. Côté TNT, c'est Elysium. Si je lis bien, Elysium sur TMC, 1 200 000 téléspectateurs qui est en tête de la TNT. Et alors, Christophe de Chavannes démarre très très fort avec The Wall hier sur TF1, puisqu'il rassemble à 19h près de 5 400 000 téléspectateurs et 27% du public. Alors, il y a sans doute un effet de curiosité, ça reposera peut-être un petit peu après, mais c'est un très fort score et ça ne prend rien à personne d'autre, puisque Touche pas à mon poste rassemble plus d'1 700 000 personnes, Quotidien plus d'1 400 000, C'est à vous plus d'1 110 000. Et Le Grand Journal, 100 000 téléspectateurs, alors qu'il était il y a 15 jours à 72 000.
On se retrouve dans quelques instants pour notre soirée télévisée. Et dans un instant, Rolando Villazone est avec nous grâce à Charlotte Latour. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
9h09, après 15 ans d'absence, un monstre sacré du lyrique est de retour sur scène à Paris, le ténor mexicain Rolando Villazone est Ulysse dans un opéra de Monteverdi. Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté aux répétitions de cet opéra dont la première a lieu ce soir.
En cette année où l'on fête les 450 ans de la naissance de Claudio Monteverdi, le Théâtre des Champs-Élysées programme le retour d'Ulysse dans sa patrie, composé à Venise en 1640. Rolando Villazone y tient pour la première fois de sa carrière, car c'est un opéra peu donné, le rôle d'Ulysse. Attention, ça n'est pas du son qualité CD. Ceci est un enregistrement de la répétition générale.
Bella, bella, bella.
Verdi est l'inventeur de l'opéra baroque. À la fin de la Renaissance, il a l'idée de mêler musique et théâtre en traitant de sujets mythologiques. Il est l'auteur de 18 opéras, mais 3 seulement sont parvenus en intégralité jusqu'à nous, dont ce Retour d'Ulysse, où cohabitent le monde des dieux et le monde des hommes. L'histoire s'inspire de l'Odyssée d'Homère. Ulysse, après 20 ans de guerre, revient chez lui à Ithaque, où sa femme Pénélope lui est restée fidèle, rusant pour repousser ses prétendants et accessoirement prétendant au trône.
C'est un opéra qui est magnifique, c'est génial, c'est d'une intelligence extraordinaire. À la fin de l'opéra, après plein de scènes avec beaucoup de personnages, des dieux, des prétendants, des chœurs, des duos, des trios. Mais après tout ça, Monteverdi nous laisse dans l'intimité des deux personnages, Pénélope et Ulysse, dans un duo magnifique par sa simplicité. Finalement, c'est un symbole de la vie en couple, de l'amour.
Alors les thèmes abordés dans l'œuvre sont finalement assez intemporels, Charlotte.
Mais oui, fidélité, solitude, liberté, absolument. C'est ce qui fait dire à la chef d'orchestre prêtresse du baroque Emmanuel Haïm, tout a changé et rien n'a changé. Une chef sans baguette, énergique, souriante, déterminée, qui se révèle même assez protectrice. Elle avait déjà donné des concerts avec Villasson, mais ces deux-là n'avaient jamais travaillé ensemble sur un opéra. Notre ténor, qui n'a pas toujours ménagé sa voix par le passé, ce qui a entraîné quelques problèmes de santé, est toujours assez anxieux avant d'aborder un nouveau rôle. Emmanuel Haïm l'a donc invité à travailler ce retour d'Ulysse chez elle, près de Paris, pendant un mois.
C'était super parce que de la même façon, on a trouvé le temps pour travailler le détail, le tempo, les expressions. Pourquoi la poésie dit ça? C'est quoi le mot qu'il faut accentuer dans les vers? C'est où la direction? Parce que finalement, c'est comme du théâtre là. C'est des grands récits que si on le chante seulement, c'est très ennuyeux. Donc pour le public, vraiment, il faut le jouer.
Le résultat, c'est un opéra coloré, musicalement et scéniquement. La mise en scène de la Française Mariam Clément est truffée de jolies surprises. Derrière un rideau qui montre la Méditerranée scintillante, il y a des tapis roulants qui apportent les accessoires sur scène. Vous avez aussi un canapé à paillettes qui descend du ciel pour transporter les dieux.
Tiens donc.
Tout plein de références aux machineries de théâtre du XVIIe siècle. Et s'il y en a un qui se régale avec ça, c'est bien entendu Rolando Villasson. Le chanteur est un vrai clown, il fait des mines, il exagère ses gestes, mais il revient très vite à la retenue quand le texte le nécessite, car le fond de l'histoire reste bien évidemment dramatique. Et le passage d'un ton poignant à des accents plus légers se fait à chaque fois en finesse et en cohérence avec l'œuvre. C'est raffiné, profond et finalement très actuel pour un opéra qui a 377 ans. Le bouillonnant Rolando Villasson chante aux côtés de la parfaite mezzo tchèque Magdalena Kožená à partir de ce soir et jusqu'au 13 mars au Théâtre des Champs-Élysées à Paris et puis à Dijon du 31 mars au 2 avril.
Merci beaucoup Charlotte Latour, merci de ces applaudissements qui nous vont droit au cœur et qui nous permettent d'accueillir à nouveau Isabelle Morini-Bosque pour notre soirée télévisée. Alors on va commencer par votre coup de cœur, c'est la spéciale de France 2 qui s'intitule Tout le monde zoue.
Oui, ou comment se coucher moins bête le soir en jouant avec une série de tests que le public peut faire chez lui grâce à une application ou un bête crayon, hein, c'est mon cas. Ce soir on parle du cerveau, plus exactement du QE. Le quotient émotionnel plutôt que du QI, le quotient intellectuel qu'on quantifie. Le présentateur Nagui se retrouve une nouvelle fois en couple avec son complice Michel Simès. Michel Simès qui apprécie.
Ah oui, il est très content de me retrouver.
C'est vrai que vous êtes déjà un vieux couple.
Oui, mais le quotient émotionnel, c'est quelque chose que les gens connaissent pas bien, parce qu'en fait, on parle beaucoup du quotient intellectuel, le fameux QI, très très discuté, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Mais le quotient émotionnel, on s'aperçoit de plus en plus qu'il est très important dans la gestion de notre vie. Il ne s'agit pas de savoir si on est émotif ou pas émotif, il s'agit de savoir comment on apprend ou pas, d'ailleurs, à gérer ses propres émotions pour en faire un atout. Donc ça regroupe beaucoup, beaucoup de choses qui, dans la vie, sont indispensables dans nos relations sociales. Et nous, l'idée de cette émission, c'est de montrer aux gens, voilà, votre quotient émotionnel, est-ce que vous savez reconnaître les émotions des autres, est-ce que vous savez reconnaître et maîtriser vos propres émotions, et même vous en servir comme d'un atout, c'est de ça dont on va parler.
Alors, le quotient émotionnel, sachez-le, stimule le système immunitaire, lutte contre les maladies cardiovasculaires et le diabète, mais jouer avec le cerveau, c'est un peu du déjà-vu.
Non, il y a eu sur le cerveau, je présente pas mal d'émissions à la télé, comme vous l'avez peut-être remarqué, et effectivement, on avait fait une émission sur les pouvoirs extraordinaire du corps humain avec Adriana. Mais là, vous avez probablement remarqué qu'il y avait une grande différence physique entre Nagui et Adriana. Les deux autres émissions qu'on avait faites avec Nagui, c'était sur le cerveau et sur la mémoire.
Ah non, je ne parlais pas de ça, je parlais de la spéciale par exemple de Laurence Boccolini ou de Karine Lemarchand sur M6. Ah, sur... Je vous dis ça parce qu'elles avaient moyennement marché.
Ah, et ben on va voir si finalement avec Nagui et moi ça marchera mieux. Et effectivement, on va jouer avec un certain nombre de quiz qui vont balayer un petit peu toutes les facettes du quotient émotionnel.
C'est vrai que c'est mieux pour l'esprit que les tests de QI basés sur la logique. Moi, par exemple, j'arrive même pas à faire les tests de logique du journal de Mickey, Michel. Ah
bon, non, mais là, on parle de pathologie, là, Isabelle. Ben, je sais pas, vous verrez. Encore une fois, quand on passe les tests, vous verrez que c'est très subtil. Hein. Il y a des choses... moi, j'avais passé les premiers tests il y a quelques semaines en préparant l'émission. On a l'impression qu'on a un quotient émotionnel, qu'on est très empathique. Moi, en tant que médecin, mon métier, c'est d'écouter les patients, de comprendre leurs émotions, etc. Et sur certains points, j'ai eu des résultats qui étaient pas terribles.
Alors, je vous rappelle qu'il va faire médecin à la rentrée dans un meurtre A sur la 3.
Vous alors,
la
une petite confidence
plaît-il
à mes tests pour le service militaire, moi j'ai eu 12, ce qui est à peu près.
Au test du QI ?
Ah oui, c'est
je pense que je dois avoir 10, moi.
Ah bah oui, parce que tout le monde a 20, c'est même les imbéciles. Non,
12. Surtout les imbéciles.
Faut être différent. La suite ce soir, face, donc sur la 2 à 20h55, face à la fin de La Stagiaire sur la 3. Une fiction qui pourrait être encore en tête des audiences, d'autant qu'il faut bien le dire, elle est particulièrement réussie cette saison 2, dans laquelle la juge stagiaire Michel Bernier suit, comme nous, l'évolution savoureuse des rapports entre un nouveau jeune juge psychorigide et le procureur qui couche avec la mère de ce subordonné.
Ah bon.
La Stagiaire sur la 3, forcément, je vous les juge.
Oui, alors c'est suivi du Divan de Marc-Olivier Fogiel avec ce soir Bernard Tapie.
Alors vous verrez qu'il y a tout du taureau dans l'arène, hein. Sauf que lui, il a bien voulu venir quand même, même s'il semble souvent le regretter. Et ceux qui disent qu'on n'apprend pas grand-chose dans ce Divan, ben, devraient mieux regarder, parce que ses expressions sont révélatrices, ses regards aussi, certains proposent également. Par exemple, quand il révèle un détail, pire pour lui que 6 mises en examen, 4 perquisitions et 3 gardes à vue.
Récemment, on m'envoie un extrait d'un journal que je ne vais pas citer de Provence. On raconte un procès d'un mec qui a violé, qui a fait 2 vols à main armée, qui a pillé sa banque. Et le titre, c'était « Le tapis de l'Indre ». Vous voyez ?
Ouais,
d'un seul coup, vous dites « Tiens, putain, je ne savais pas que j'en avais fait autant ».
Voilà. Ça, c'est des moments que répond-il à sa femme qui dit que dormir avec Bernard Tapie, c'est dormir avec 15 hommes différents ?
L'essentiel, c'est qu'elle se réveille toujours avec le même.
L'homme à femme, on l'imagine, ça fait 45 ans que vous êtes avec la même, Dominique.
Ah oui.
Et vous ne l'avez jamais trompé.
Ah bah, quand on a une femme comme ça, il faut être con, quoi. Vous savez, l'amour, hein, ça peut être la pire et la meilleure des choses. Moi, ça a été la meilleure. Moi, je n'étais pas du tout fidèle avant de connaître Dominique, mais pas du tout. Quand je connais celle-là, on se fréquente, c'est une aventure fabuleuse, passionnelle, dont on sait qu'elle ne durera pas tellement elle est exubérante dans sa violence. Ben voilà.
Voilà, donc la suite... Moi, j'ai beaucoup aimé ce Divan à 23h20 sur France 3, parce qu'il est en tenue et en retenue, mais il est beaucoup plus, il va beaucoup plus loin qu'il n'y paraît. Et ça me fait penser à cette phrase de Paul Newman, on ne va pas chercher du hamburger à l'extérieur quand on a du caviar à la maison.
Et on retrouve évidemment Marc-Olivier dès 18h sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, Monique Younes et sa bande dessinée du mois de février. Elle consacre un cow-boy. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
9h22, bonne journée à tous. Monique Younes.
Oui.
La bande dessinée RTL de février consacre un cow-boy. Il a pour nom Gus et pour auteur Christophe Blain. C'est une des stars du 9e art.
Oui, Christophe Blain est un scénariste et dessinateur exceptionnel, un dynamiteur de genre. Alors, quand le premier album de Gus est apparu en 2007, ce fut un choc. On découvrait une sorte de Lucky Luke qui avait vu tous les films de la Nouvelle Vague et tous ceux de Tarantino. Gus, à la différence de Lucky Luke, n'était pas solitaire. Il avait 2 copains, Clem et Gratte, et les 3 potes braquaient les banques, pillaient les trains, se saoulaient au saloon et tombaient amoureux à tour de bras.
Les albums se sont succédés avec de plus en plus de succès, évidemment.
Et plus rien. Pendant 8 ans, les fans étaient en manque, à cran, prêts à aller chercher l'auteur et le tremper dans le gourdon et les plumes.
Goudron, pardon. En français, c'est Goudron.
Oui, Goudron. Et revoilà Gus dans le 4e album de la série, à la recherche de la femme de sa vie, tandis que son ami Clem, plein aux as après 5 braquages de folie, passe des jours paisibles dans sa super propriété de San Francisco. C'est ainsi qu'a décidé Christophe Blain.
C'est le mythe du gangster qui veut se ranger et qui a du mal parce que c'est pas tellement son passé qu'il poursuit, c'est lui-même. Il est très ambigu. C'est un gangster, mais il fait ça comme un artiste. Il est flamboyant, il gère mal son argent, il perd tout, il en gagne beaucoup. Donc c'est un univers qui est très mouvementé, pas très rassurant.
On est dans un western ou dans un thriller des années 50 ?
Ah, le doute est permis, le dépaysement total, l'originalité garantie. Le décor, les coups de feu, la vitesse des chevaux, tout y est. Mais ce qu'on ne trouve généralement pas dans les westerns, c'est des personnages. Comme ce Clem, le héros, marié à Ava, une romancière à succès, une belle femme fantasque, indépendante, combative, intelligente. Elle sait qu'il n'y a que les braquages qui fascinent son mari et l'encourage à retrouver ses potes. Vous le voyez, les clichés du genre sont pris à contre-pied par Christophe Blain.
Si un des personnages auxquels je m'identifie beaucoup, beaucoup dans cette histoire, c'est Ava, je pourrais dire que je suis amoureux d'elle. Par moments, c'est moi. Et par moments, elle m'échappe. et un personnage qui vous échappe, c'est une grande jubilation. Les doutes d'Ava, sa force, la capacité qu'elle a par moments à relancer son couple de manière totalement étonnante. C'est une femme très aimante, mais très fantasque, parce que romancière, très torturée, parce qu'elle a du mal à écrire. C'est un personnage qui me plaît énormément, énormément.
Et c'est pas fini, notre couple gangster-écrivain a une fille, Jamie, qui a de qui tenir. Son imagination débridée fait partir la bande dessinée de Blin dans des zones surréalistes.
En fait, un des grands thèmes de cet album, c'est le regard qu'ont les enfants sur les adultes et le regard qu'ont les adultes sur les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants savent tout de leurs parents. Plus son père lui cache le fait qu'il est un gangster, plus elle le sait. Et c'est très intéressant de voir quelle stratégie les enfants peuvent mettre en œuvre pour résister à ça.
Bref, Christophe Blin a réalisé un bel ovni américain, ambigu, complexe. Ses personnages nous entraînent loin dans l'Ouest, le vrai. Ils laissent derrière eux des nuages de poussière mélancolique. Il y a toujours des méchants qui font des trucs bien et des gentils qui déraillent. Les femmes jouent les braqueuses, les scènes de ménage se tiennent au triple galop. Ça cause comme dans un roman de Marguerite Duras et ça tire comme dans les films de Sam Peckinpah. Christophe Blin convoque à peu près tous les héros de son enfance, de Fantômas à Jacques l'Éventreur. Il y a du Kirk Douglas dans le menton de Gus, et aussi, on peut s'amuser à reconnaître les personnages de série B hollywoodienne. Bref, ce quatrième tome de Gus parle d'amour, de violence, sans niaiserie, sans préjugés. On est dans un monde où les braqueurs sont aussi de bons pères de famille et les écrivaines des pétroleuses. Christophe Blin invente une nouvelle catégorie sociale, les bourgeois bandits. On va les appeler les bobans, qui sont écrivains, peintres, aussi inquiétants que fascinants par leur tendresse et leur loufoquerie.
Bref, on les aime.
Et on les sacre, on les consacre, puisque Gus, édité par Dargo et la bande dessinée RTL de février. Et si vous voulez voir les planches originales de Gus, elles seront exposées à partir de vendredi et pour un mois à la galerie Barbier et Maton, rue Choron, dans le 9e arrondissement à Paris. Alors si vous passez par là, ne les loupez pas.
Voilà qui est dit, on a passé un excellent moment. Dans un instant, on se retrouve pour accueillir Julien Courbet. A tout de suite, bonne journée à l'écoute d'RTL.
Mais
vous allez interrompre cette conversation. Mais nous sommes à l'antenne d'RTL, première radio de France.
Première radio de France.
Voilà, alors ce petit rire qui couine est celui de Monique Younes. On se dit au revoir, on se remercie et on salue Julien Courbet.
Écoutez, je suis heureux de savoir que Monique Younes, que j'aime beaucoup, a un rire qui queen.
Elle queen un peu, par moment.
Mais écoutez, mais ça, c'est depuis que vous prenez la matinale. Oui, sachez que ça. Moi qui suis là depuis maintenant 20 ans, elle ne queenait pas avant.
Non.
Voilà. Beaucoup ont essayé, mais peu ont réussi. Et vous êtes le premier.
Bien
et
sûr.
Ça, vous pouvez le mettre sur votre CV.
Vous aurez compris que c'est
anglais,
madame, c'est
lui,
queen,
parlait, fait queener Monique Younes. Bon, mais je vous souhaite une bonne matinée.
Bonne émission.
Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.